C'est très impressionnant de quand on fait un peu le point. Alors, je n'ai pas vu tout le monde, mais des chefs d'État comme François Hollande ou Barack Obama ont souligné la grande qualité de ce texte. Notre ministre de l'Environnement aussi. Le parti écologiste en France dit enfin un pape qui répand nos idées. Ça va nous donner un coup de pub. Donc, c'était aussi intéressant de voir comment certains courants pouvaient aussi se réapproprier certains propos du pape. Naomi Klein, qui est une grande conférencière qui est bien réputée sur le plan de la protection de la planète, a encouragé les gens à lire cette encyclique et même a été invitée par l'Église ou par des autorités ecclésiastiques pour parler de l'encyclique aussi. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de retentissement dans le monde non chrétien. D'ailleurs, des paroisses ont acheté en grande quantité des encycliques et les ont distribuées dans des marchés bio, des congrès d'énergie renouvelable ou des choses comme ça pour entrer en dialogue avec les gens et avec un assez bon retour en fait.
Quelle nouveauté avez-vous décelée à travers ce texte?
La nouveauté principale, ça dépend de ce qu'on appelle nouveauté, mais par rapport aux prédécesseurs, c'est le concept d'écologie intégrale. Il le fait un petit peu dans la continuité et la rupture avec ses prédécesseurs, c'est-à-dire les prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI parlaient d'écologie humaine, et le pape François parle d'écologie intégrale, et l'écologie humaine, c'est quelque chose qui doit être intégré dans ce vaste édifice qui est l'écologie intégrale. Sinon, en termes de nouveauté, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que le pape François était attentif à la recherche en théologie de l'écologie, en ce qui concerne par exemple son interprétation de la biodiversité comme lieu de la créativité de Dieu dans la création, ou encore comme de penser le fait d'être relié pour les créatures comme une sorte de signature de l'acte créateur. Donc ça, c'est on peut mettre des noms d'auteurs contemporains qui sont dans cette veine et qui développent ce type de théologie.
Laudato si, j'imagine que vous en avez beaucoup parlé avec vos étudiants. Comment vous l'avez travaillé finalement avec vos étudiants?
J'ai pas eu l'occasion de le faire avec des étudiants encore, mais je le fais énormément dans le cadre des conférences. Je resitue toujours un petit peu d'abord dans le contexte de qu'est-ce que ça signifie l'écologie, parce que si de nombreux catholiques ont été surpris par cette encyclique par le fait qu'on parle d'écologie en tant que chrétien, c'est justement parce que pour beaucoup d'entre eux, l'écologie, c'est d'abord l'objet d'un parti politique auquel beaucoup de chrétiens ne veulent pas s'identifier. Et donc que le pape s'intéresse à l'écologie, ça interpelle. Et puis après, j'essaye d'expliquer quelles sont un peu les grandes intuitions fondatrices du pape, en particulier dans le fait qu'il a été très confronté à la pauvreté, la précarité des pauvres dans les bidonvilles en particulier, lui a amené à comprendre que si on ne prend pas soin de l'environnement naturel des gens qui sont déjà pauvres, eh bien on n'arrivera pas à les faire sortir de leur pauvreté. Et réciproquement, les mêmes processus qui fabriquent la pauvreté sont ceux qui fabriquent de la crise écologique. Donc cette idée d'unité de crise écologique qui est liée finalement à un mode de fonctionnement de notre humanité qu'il faut absolument convertir, et c'est justement le thème central, à mon sens, et même la structure de l'encyclique, qui est la conversion. Et ça, je le montre que le plan de l'encyclique, ça surprend quand je le fais, suit le processus de la conversion d'après le sacrement de réconciliation, avec un état des lieux de sa propre vie, ensuite l'accueil de la grâce qui éclaire la vie et la conscience, au chapitre 3 pour confesser ses péchés et reconnaître sa responsabilité en la crise écologique, le chemin de conversion offert par l'écologie intégrale au chapitre 4, le chapitre 5 la pénitence avec les mesures pour se corriger, et le chapitre 6 pour ne pas faire s'endormir la grâce, il faut une éducation et une vie spirituelle. Et donc voilà, je montre comment le thème de la conversion est vraiment central, parce que pour le pape, ce qui est vraiment un capital de faire comprendre aux chrétiens, c'est que la sauvegarde de la création, c'est un comportement qui doit découler du cœur même de la foi. Et donc une véritable conversion au Christ est une conversion qui amène spontanément le comportement à la sauvegarde de la création.
L'un des grands événements écologiques de l'année, c'est là aussi bien sûr la conférence mondiale sur le climat qui vient de s'achever à Paris, la COP21. Le pape en a beaucoup parlé, il a prié pour la réussite de cette conférence. Il en parle aussi dans son message pour la journée mondiale de la paix du 1er janvier prochain. Est-ce que l'on peut dire, Fabien Revol, que cette année 2015 aura été un tournant dans le discours de l'Église et ses prises de position en matière d'écologie? Est-ce que vraiment on peut parler d'une année charnière?
C'est une année charnière parce que c'est l'année où on a la première encyclique qui parle d'écologie. Les enjeux de la COP21 arrivent à un moment où on est un peu à un point de non-retour. Donc ça, pour ça, oui, c'est une année charnière. Mais les thématiques qui sont présentes dans l'encyclique, elles sont rendues, on va dire, visibles et officielles dans le magistère, mais les idées que le pape développe, elles étaient déjà présentes chez ses prédécesseurs de manière plus confidentielle.
Et vous avez le sentiment que le discours de l'Église aujourd'hui est plus recherché qu'auparavant, justement, sur ces questions-là ?
Le discours de l'Église est plus recherché sur ces questions-là par la force des choses. C'est-à-dire que depuis les années 70, la théologie de l'écologie a émergé en Amérique du Nord et elle s'est diffusée progressivement. On a commencé à avoir des papes qui en ont parlé à partir de Paul VI, puis ça s'est développé avec Jean-Paul II de manière plus construite, quoique diffuse, et puis de manière encore plus construite avec Benoît XVI. C'est parce que je pense que l'Église a toujours le souci d'accompagner les grands mouvements de la société, et donc elle élabore aussi son discours progressivement. Donc je pense que le discours sur l'écologie sera encore beaucoup mieux élaboré dans 10 ans qu'il n'est aujourd'hui.